Chapitre 30. Dernier combat contre l'intempérance. Le curé de Longueuil, M. l'abbé Moïse Brassard, qui avait été un de mes professeurs à Nicolet et qui m'avait toujours témoigné beaucoup d'affection, me reçut avec la plus chaleureuse hospitalité à ma sortie du couvent. Mon premier soin fut de préparer un mémoire sur les raisons qui m'avaient fait quitter le monastère. On m'avait rapporté qu'un prêtre ayant dit à l'évêque combien il était heureux de me voir travailler de nouveau comme prêtre séculier, sa grandeur lui avait dit froidement « Le père Chiniki est libre de sortir de chez les Oblats, mais il sera désappointé s'il veut travailler dans mon diocèse. Je n'ai pas besoin de ses services. » Ceci ne m'avait pas surpris. Je savais que l'évêque s'était fait le protecteur de ses moines. Il m'avait lui-même dit sa satisfaction de me voir entrer dans leur ordre. Mais les raisons que j'allais lui donner de ma sortie étaient si fortes que je savais qu'il ne pourrait me refuser son estime après qu'il m'aurait entendu. Je ne fus pas déçu. Les premiers moments de mon entrevue avec lui furent pourtant orageux. « Je ne puis vous cacher, me dit-il, ma surprise et ma peine. Quelle confiance pourra-t-on mettre en vous à l'avenir, puisque vous montrez si peu de persévérance? Vous avez perdu l'estime de vos meilleurs amis et la mienne. Je ne vous le cache pas, des bruits courent déjà sur votre compte au sujet de votre sortie de chez les Oblats, qui vous font un dommage irréparable. On nous assure que vous avez un caractère intraitable et que vous êtes si rempli de vous-même que les supérieurs ont été forcés de vous mettre à la porte. » Le ton dans lequel ces paroles m'étaient adressées me disait que je n'entendais pas la dixième partie de ce que mon évêque avait contre moi. Heureusement, je m'y étais attendu. Avant de paraître en sa présence, je m'étais préparé à tout entendre. J'avais passé les trois derniers jours en prière, demandant à Dieu de m'accorder de rester calme au milieu de la tempête, et j'avais évidemment été exaucé. J'écoutais les choses pénibles que l'évêque me dit, comme si elles avaient été adressées à une personne qui me fut tout à fait étrangère. « Monseigneur, répondis-je, permettez-moi de vous assurer que la crainte de ce que les hommes diront à mon sujet n'a été pour rien dans les raisons qui ont motivé la démarche solennelle que je viens de faire. Le seul motif qui m'a fait agir est le désir de sauver mon âme et travailler plus que jamais au bien de notre commune patrie. Les rumeurs qui semblent si fort occuper votre grandeur au sujet de mon expulsion de chez les Oblats ne me troublent pas le moins du monde, car elles sont sans fondement. Depuis le premier jusqu'au dernier jour de mon séjour parmi les Oblats, j'ai été honoré de l'estime et de l'amitié de tous, sans exception. Des larmes coulaient de tous les yeux lorsque j'ai fait mes adieux et je n'ai pas d'amis plus sincères que les membres de cette communauté. Ayant la bonté de lire la lettre testimoniale que le supérieur m'a remise le jour de mon départ. L'évêque prit ce document de mes mains et lut lentement à haute voix. Le sous-signé, supérieur du noviciat des pères Oblats établis à Longueuil, atteste que la conduite de M. Chiniki, durant son séjour dans notre maison, a été digne du caractère sacré dont il est revêtu et qu'après une année de solitude, il ne mérite pas moins la confiance dont ses confrères dans le sacerdoce l'ont honoré avant cette époque. Nous aimons surtout à rendre témoignage à son zèle constant pour la tempérance. Nous pensons que rien n'est plus propre à donner un caractère de stabilité à cette œuvre admirable et à lui assurer un succès complet que les réflexions faites dans la retraite sur l'importance de son sujet. Fait à Longueuil, 1er octobre 1847, Allard supérieur, Oblat de M.I. Je ne puis dire le plaisir que j'éprouvais lorsque j'aperçus l'effet presque magique produit par ce document sur l'esprit de mon évêque. Il me rendit le papier en disant « Je bénis Dieu de ce que toutes ces mauvaises rumeurs soient fausses. À présent, dites-moi les raisons qui vous ont fait quitter ce monastère. » Je lui présentai alors mon mémoire long d'environ 30 pages. L'évêque en lut environ 5 ou 6 avec la plus grande attention. « Êtes-vous bien certain de l'exactitude de tout ce que vous dites là ? » me demanda-t-il d'une voix troublée. « Oui, monseigneur. Ces choses sont aussi certaines que ma présence est la vôtre dans cette chambre sous le regard de Dieu. » L'évêque devint pâle comme un mort et demeura une minute ou deux sans parler. « Je vous comprends, dit-il enfin. Je vous avoue franchement que j'aurais beaucoup préféré vous voir rester parmi les Oblats, mais les pensées des hommes ne sont pas celles de Dieu. Il se peut qu'il veuille que vous employiez à l'œuvre de la tempérance comme messager de ses miséricordes et non comme l'envoyé d'un supérieur qui pourrait bien être votre inférieur dans la grande et sainte cause dont vous êtes évidemment l'apôtre au Canada. » Je suis heureux de vous dire que j'ai parlé de vous à notre Saint-Père le Pape et qu'il m'a remis pour vous un superbe médaillon contenant son portrait ainsi qu'un très beau crucifix qu'il a béni exprès pour vous. J'aime à profiter de cette occasion pour vous les offrir en son nom. Je tombai à genoux pour les recevoir et les pressai sur mes lèvres. Aucune parole ne pourrait exprimer les sentiments de bonheur que j'éprouvais en ce moment. Je restai quelque temps muet de surprise et d'admiration en regardant ces objets qui me venaient de celui que je croyais alors le successeur de Saint-Pierre et le vicaire de Jésus-Christ. En me présentant ce beau Christ, l'évêque me donna les plus amples pouvoirs pour établir la société de tempérance dans toutes les paroisses de son diocèse où l'on m'appellerait. En me congédiant, pendant que j'étais à ses pieds, il posa ses mains sur ma tête et pria Dieu de me conduire et de me diriger dans toutes mes voies. En reprenant ma place dans les rangs de l'armée qui combattait contre le monstre de l'alcoolisme, je sentis plus que jamais ma faiblesse. Combien de fois ne me jetais-je pas aux pieds de mon Dieu pour considérer s'il m'était possible de reprendre la lutte? Combien souvent je me suis senti découragé, prêt à prendre la fuite devant cet ennemi formidable? Mais dans ces heures de trouble et d'angoisse, le bon maître vint toujours à mon secours en me disant « Ne crains rien, je suis avec toi. Prends courage, j'ai vaincu le monde. » Je me jetai enfin dans les bras de mon Dieu, comme un enfant dans les bras de son père, pour recevoir de lui les forces dont j'avais besoin. Cependant, ma confiance en Dieu ne me fit pas négliger les moyens que la Providence m'offrait dans la science et la sagesse humaine. Comme je l'ai déjà dit, j'avais étudié les livres des plus savants écrivains depuis le célèbre naturaliste Pline jusqu'à Sir Ashley Cooper, le docteur Combe, etc. Afin de m'éclairer sur la nature et les effets des boissons alcooliques, j'avais extrait de tous ces ouvrages des notes savantes, des faits remarquables et des arguments puissants en faveur de mes principes. J'avais moi-même écrit un livre, le Manuel de tempérance, dont le succès avait été remarquable. 4 éditions en avaient été écoulées en moins de 4 ans. Rien, cependant, ne me fut plus utile dans mes études que ma correspondance et mes entrevues avec le père Matthews lors de sa visite aux États-Unis. Je choisis pour mon premier champ de bataille la paroisse de Longueuil et je réservais le premier dimanche de l'Avent pour frapper les premiers coups. Mais plus l'heure approchait où il me faudrait tirer l'épée, plus je sentais la solennité de ma position et le besoin du secours de celui qui seul pouvait me donner la victoire. Mon invariable règle était de ne jamais prêcher la tempérance avant d'avoir pris des renseignements. 10 sur le nombre de morts, d'accidents et de meurtres causés par la boisson, 20 sur le nombre d'orphelins et de veuves faits par l'ivrognerie, 30 sur le nombre de familles riches ruinées et des familles pauvres retenues dans la misère par l'usage des boissons fortes, 40 sur la somme approximative de l'argent dépensé en boissons enivrantes dans l'espace des 20 dernières années. J'appris ainsi que, pendant cet espace de temps, 32 hommes avaient perdu la vie à Longueuil en état d'ivresse, que 25 veuves et 75 orphelins devaient à la boisson la perte d'un époux ou d'un père, que 72 familles riches avaient été complètement ruinées et 80 pauvres étaient restés dans une affreuse misère, que 300 000 piastres, 300 000 dollars, enfin, avaient été dépensés en alcool. Pendant 3 jours, je parlais à une foule compacte de tout âge et de toutes conditions, réunie dans l'église. Le 3e jour, il me fut aisé de démontrer que l'alcool attaque et détruit l'intelligence en donnant la mort à l'âme, qu'il est l'ennemi de l'évangile, de Jésus-Christ et de son église, l'ennemi de toutes les lois humaines et divines, l'ennemi de Dieu, le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ma conclusion fut que nous devions tous nous armer pour détruire cet ennemi dont le bras impitoyable était constamment levé contre nous. Je fis le navrant tableau de nos amis et de nos parents les plus chers tombés à nos côtés, victimes de ce fléau. Je mis devant les yeux les veuves et les orphelins sans nombre qui lui devaient une vie de misère, d'opprobre et de désolation telle que le langage était impuissant à la décrire. Je n'étais pas à la moitié de mon discours que les larmes coulaient de tous les yeux. Parfois, les sanglots et les cris de douleur couvraient tellement ma voix qu'il fallait m'arrêter pour attendre que le silence se rétablît. Prenant ensuite de la main gauche le magnifique crucifix donné par le pape, je montrai à mes auditeurs tout ce que le sauveur du monde avait souffert de torture pour expier les crimes enfantés par les boissons fortes. Je leur fis entendre sa voix s'unissant à celle de la Sainte Vierge et de tous les saints qui les conjuraient de chasser loin d'eux et de frapper à mort ce monstre. Le Seigneur avait évidemment béni les humbles efforts de son indigne serviteur. 2300 citoyens de Longueuil s'enrôlèrent sous les saintes bannières de la tempérance. Au lieu de les inviter à signer une promesse écrite, je les priai de venir au pied de l'autel baiser le crucifix auquel était attachée la bénédiction du pape. La première chose que la plupart de ces admirables habitants de Longueuil firent en arrivant chez eux fut de briser leurs cruches et leurs barils et de répandre sur la terre la boisson détestable qui leur avait coûté tant de larmes et d'argent. Une semaine plus tard, j'avais reçu l'appel de 80 paroisses pour y établir la société de tempérance. Je me mis de suite à l'œuvre. Les diocèses de Montréal, Trois-Rivières et Saint-Hyacinthe, contenant plus de 200 paroisses, avec une population de 200 000 âmes, s'enrôlèrent généreusement sous les saintes bannières de la tempérance. Pendant cette année et les trois qui la suivirent, je prononçai 1800 discours que le Seigneur bénit également partout, au-delà de mes espérances. Le changement fut si rapide et si sérieux qu'il semblait tenir plus du miracle que d'une cause naturelle. Partout, les tavernes furent fermées, toutes les distilleries, excepté une, eurent à changer leur destination première. Et cela sans le secours d'aucune loi spéciale. Ce fut l'œuvre spontanée d'un peuple intelligent qui avait entièrement cessé de faire usage de boissons alcooliques parce qu'il était parfaitement persuadé que ces détestables breuvages sont injurieux à l'homme, qu'ils détruisent ses forces, affaiblissent son intelligence, paralysent ses bras, dévorent sa fortune, abrègent sa vie, condamnent son âme, dégradent sa patrie et outragent son Dieu. Ces convictions étaient tellement puissantes et universelles qu'en bien des endroits, les marchands roulaient leurs barils de liqueurs, de vin, de bière sur la place publique, en faisant une haute pyramide à laquelle j'étais invité à mettre le feu. Le peuple accouru de tous côtés par la nouveauté du spectacle faisait alors retenir l'air de ses cris de joie. Les vieillards et les jeunes gens, les pères, les mères et les enfants, les personnes qui avaient toujours été tempérantes, comme celles qui venaient d'être délivrées des chaînes de l'ivrognerie, bénissaient également Dieu de la grande victoire qu'il venait de leur donner sur leur plus implacable ennemi. Oh, qu'elles étaient belles, qu'elles étaient éloquentes ces flammes qui, comme des langues de feu, semblaient vouloir monter jusqu'au ciel pour bénir le grand Dieu qui venait de nous délivrer de notre plus mortel ennemi. La lumière qui se reflétait sur les milliers de personnes qui assistaient à cette auto-da-fé offrait un spectacle d'une grande beauté. Il y avait une harmonie qui semblait plus venir du ciel que de la terre dans le bruit de ces tonneaux d'alcool que le feu dévorait et ces cris de joie, ces hurrahs qui se mêlaient au son du sublime Te Deum ou de quelque autre de nos beaux cantiques que nous chantions avec un enthousiasme impossible à décrire. Mais où trouver des paroles pour exprimer le bonheur de mon âme lorsque ces généreux enfants du Canada, au moment du départ, accouraient autour de moi, me saisissaient la main, la pressaient sur leurs lèvres et l'arrosaient de larmes de reconnaissance et d'amour. Ici, c'était une mère qui me remerciait de lui avoir rendu l'enfant qu'elle croyait à jamais perdu dans la fange de l'ivrognerie. Là, c'était un père descendu par la boisson au dernier degré de l'abrutissement, qui avait été longtemps le bourreau de sa femme et de ses enfants et que le ciel avait tout à coup et pour toujours transformé pour faire de lui le plus généreux des époux, le plus tendre des pères. Ce qui troublait ma joie dans ces jours où le ciel faisait couler les rosées de ses miséricordes sur ma chère patrie, c'était les honneurs immérités, les louanges exagérées qui m'étaient adressées. Je fus d'abord forcé, le 27 octobre 1848, de recevoir une ovation que les curés de Longueuil, Chambly, Boucherville et autres m'avaient préparée en secret lorsqu'ils me présentèrent mon portrait peint par l'artiste Hamel. Ce ne fut qu'avec bien des efforts que j'empêchais les gens de me porter sur leurs épaules. Cette ovation, que des amis bienveillants avaient préparée dans la pensée de me faire plaisir, me remplit de tristesse et me couvrit de confusion, car je me sentais si au-dessous de la haute opinion que l'on s'était formée de moi et j'étais si persuadé que je ne méritais pas les éloges que l'on me donnait. Je ne me sentis pas moins humilié et étonné lorsqu'un an plus tard, j'aperçus le juge Mondelet s'avançait vers moi, suivi de près de 15 000 personnes, pour m'offrir une médaille d'or. Au nom de la ville de Montréal, des drapeaux sans nombre flottaient au-dessus de cette multitude. Plusieurs corps de musiciens remplissaient l'air de leur symphonie. Sur un côté de cette médaille, on lisait « Au révérend Père Chiniki, apôtre de la tempérance, hommage à ses vertus, à son zèle, à son patriotisme. Sur l'autre côté, souvenir de Tempérance, mai 1849. Elle était enveloppée dans 4 billets de $100 et enfermée dans une boîte de Grand Prix. Dieu sait que, ce jour-là, j'aurais préféré être à 1000 pieds sous terre plutôt que d'entendre ces éloges que je savais trop bien n'avoir jamais mérités. C'était cependant à Toronto, au mois de juin 1850, que ces louanges devaient le plus me prendre par surprise et m'humilier. C'est là que j'allais mieux que jamais comprendre ma petitesse et l'immense distance qu'il y avait entre ce Shiniki que l'on croyait si grand et le véritable Shiniki que je savais si petit. J'avais été envoyé par 40 000 abstinents pour proposer au Parlement une loi rendant les vendeurs d'alcool responsables des maux qui tombaient sur les familles ruinées par l'ivrognerie. Le Parlement me reçut avec bonté et nomma un comité de 10 de ses principaux membres pour m'aider à préparer cet édit. J'étais présent lorsqu'il fut proposé. Napoléon ne ressentit pas plus de joie lorsqu'il gagna la bataille d'Austerlitz que, je n'en eus, lorsque j'entendis que cette loi, qui m'avait coûté tant de travail, allait être promulguée. Les vautours qui s'engraissent de tant de larmes et de sang allaient enfin être forcés de venir au secours des victimes de leur infâme trafic. Mais quelle ne fut pas ma surprise et ma consternation lorsque l'honorable De Witt, aussitôt le vote prononcé, se leva pour proposer qu'une expression de reconnaissance publique soit donnée par le Parlement. Son discours, qui dura plus d'une demi-heure, fut rempli de compliments exagérés. Il m'attribua des qualités et des mérites que je ne savais si bien avoir jamais possédés que j'aurais été tenté de croire qu'il voulait se moquer de moi, s'il n'avait été depuis longtemps un de mes meilleurs amis. Il fut suivi par les honorables Lafontaine et Baldwin, premiers ministres de la Couronne, et par 5 ou 6 autres qui renchérirent encore sur ce qu'avait dit M. De Witt. Je trouvais plus qu'étrange que l'on me donne le mérite de l'admirable changement qui s'était opéré au Canada, tandis que c'était si visiblement l'œuvre de Dieu. Il me semblait que c'était un blasphème de donner tant de louanges à un misérable homme pécheur pour une œuvre que Dieu seul avait pu accomplir. Ces discours durèrent plus de 2 heures et furent bientôt suivis par un vote unanime qui me faisait don de $6 500 comme expression de la reconnaissance de mon pays. Peu de temps avant cela, les évêques m'avaient donné des marques de leur bienveillante estime qui, quoique non méritées, m'avaient cependant été plus agréables. Car, étant accompagné de moins d'éclat, je me sentais moins troublé par la crainte qu'elle ne me tourne la tête en me faisant oublier que je n'étais rien. Lorsque Mgr Turgeon avait envoyé à Rome l'abbé Baillargeon, curé de Québec, il lui avait conseillé de venir à Longueuil me demander d'écrire à sa sainteté le pape et de lui envoyer mon livre sur la tempérance. Ceci se passa dans le mois de mai 1850. Quelques mois plus tard, je reçus la lettre suivante. Rome, 20 août 1850. Au révérend Père Shiniki. Mon bien cher ami, ce n'est que lundi 12 qu'il m'a été donné d'avoir une audience particulière du souverain pontife. J'en ai profité pour lui présenter votre livre, qu'il a accepté, je ne dirai pas avec la bonté qui le caractérise si éminemment, mais avec des signes tout particuliers de satisfaction et d'approbation, en me chargeant de vous dire qu'il accorde sa bénédiction apostolique à vous et à l'œuvre sainte de la tempérance que vous poursuivez. Je m'estime heureux d'avoir eu à offrir de votre part au vicaire de Jésus-Christ un livre qui, après avoir fait tant de bien à mes compatriotes, a pu faire découler de sa bouche auguste des paroles aussi solennelles. Et c'est pour mon cœur un plaisir bien doux que de vous les transmettre. Votre ami, C. Baillargeon, prêtre. Peu de temps avant que cette lettre m'arrive de Rome, l'évêque Bourget m'avait officiellement nommé apôtre de la tempérance dans le document suivant. Ignace Bourget, par la miséricorde divine et la grâce du Saint-Siège apostolique, évêque de Ville-Marie, Montréal. Nous certifions et nous aimons à faire connaître à tous ceux qui liront cette présente que le révérend Charles Shiniki, prêtre, apôtre de la tempérance de notre diocèse, nous est bien connu et qu'après mûr examen, nous assurons qu'il mène une vie digne de l'état ecclésiastique et qu'il n'est à notre connaissance lié par aucune censure ecclésiastique. C'est pourquoi nous prions, par les entrailles de la miséricorde de Dieu, tous les archevêques, évêques ou autres dignitaires ecclésiastiques chez qui il ira, de le bien recevoir pour l'amour de Jésus-Christ et dans le cas où il le désirait, de lui permettre de célébrer le Saint-Sacrifice et d'exercer les autres fonctions ecclésiastiques, déclarant que nous sommes nous-mêmes prêts à lui conférer ses privilèges et d'autres plus grands encore. En foi de quoi, nous avons donné les présentes lettres sous notre sein, le sceau de nos armes et le contre-sein de notre secrétaire dans notre ville et palais épiscopal le 6 juin 1850. Ignace, évêque de Montréal. Par ordre signé I.O. Paré, chancelier secrétaire. Ces louanges continuelles étaient comme des meules de moulin attachées à mon cou pour me précipiter dans l'étang de feu dont Jésus-Christ dit que les flammes ne s'éteindront jamais. Je me débattais en vain sur leur poids. Quand je croyais m'être débarrassé de quelques-unes d'entre elles, il m'en arrivait d'autres qui m'écrasaient encore plus. Un jour, c'était la presse aux mille trompettes qui m'exaltait outre mesure. Un autre jour, c'était des adresses que les populations me présentaient chargées de toutes les hyperboles de la rhétorique. Des ovations continuelles m'étaient faites d'une paroisse à l'autre. La foule accourait partout à ma rencontre, les uns en voiture, les autres à cheval, d'autres à pied, portant des étendards aux brillantes couleurs. Bien des fois, les chemins que nous parcourions étaient bordés des deux côtés de rangées d'érables, de sapins, de cèdres qu'on avait apportés la veille des forêts voisines, malgré la défense que j'en faisais sans cesse. Combien de fois les curés me demandaient pourquoi je paraissais si triste lorsque les multitudes qui m'environnaient paraissaient si heureuses. « Je suis triste, leur répondais-je, parce que ces honneurs que l'on me donne et que je mérite si peu sont le plus sûr moyen entre les mains du démon pour m'entraîner avec lui dans l'enfer. Mais la réforme que vous opérez au Canada et le bien que vous nous faites à tous est si grand que nous ne pourrons jamais assez vous en exprimer notre reconnaissance. » « Ne voyez-vous pas, répliquai-je, que cette réforme est trop grande pour être l'œuvre d'un homme ? C'est l'œuvre de Dieu, et il n'est pas permis d'en attribuer le mérite et la gloire à un pauvre pécheur tel que moi. » Outre la crainte que j'avais de me laisser séduire et enivrer par l'encens des louanges et les illusions de la vanité, j'éprouvais une véritable frayeur en voyant les sommes considérables que la générosité de mes compatriotes faisait couler dans mes mains. Il était bien rare qu'on me laissa partir sans me donner de 50 à 200 dollars et quelquefois plus comme témoignage de reconnaissance. Ces sommes auraient bientôt fait de moi un des hommes les plus riches du Canada, si j'avais été doué d'une plus haute intelligence. J'aurais pu accumuler en peu de temps 70 000 à 80 000 dollars, avec quoi il m'aurait été aisé de faire de grandes choses plus tard. Mais lorsqu'en la présence de Dieu, je descendais dans le secret de mon cœur, et que j'examinais qu'il serait assez fort pour porter sans danger le poids de cette fortune, je le trouvais trop faible pour risquer cette épreuve. Je connaissais tant d'autres prêtres et de laïcs, plus forts et plus vertueux que moi, que le poids des richesses avait fait tomber et périr sur la route, que je me sentais saisi d'une sorte de terreur à la vue de ces trésors inattendus dont la Providence me faisait le dépositaire. D'ailleurs, lorsque j'étudiais au collège de Nicolet, et que je n'avais encore que 18 à 19 ans, mon directeur et mon bienfaiteur tout à la fois, le vénérable abbé Lepron, m'avait dit un jour « Chiniki, si tu persévères dans la voie où tu marches au collège, ta carrière future sera un parfait succès. Tu t'élèveras au niveau des premiers hommes du pays et tu auras mille occasions de devenir riche. Mais lorsque l'or et l'argent couleront dans tes mains, comme les eaux du Saint-Laurent dans l'océan, ne les entasse pas dans un trésor et n'y attache pas ton cœur. Car l'amour des richesses avilit l'homme, le rend misérable sur la terre et le damne pour l'éternité. Ne fais pas comme les animaux qu'on engraisse et qui ne nous donnent leur chair qu'après leur mort. Distribue ta fortune avec prudence pendant ta vie. C'est le meilleur et le plus noble moyen d'en jouir. Et Dieu et les hommes t'en béniront. Ta vie s'écoulera dans la paix et l'heure de la mort sera belle et glorieuse, car tu quitteras la terre avec l'assurance de retrouver ses trésors mille fois multipliés au ciel. » Ces solennelles paroles s'étaient gravées dans ma mémoire. Bien plus, je les lisais tous les jours écrites dans mon cœur par la main de Dieu lui-même. Et puis je les retrouvais à chaque page de cette Bible qui m'était si précieuse et dont la lecture faisait les plus pures délices de mon existence. Je m'étais donc jeté à genoux au pied de ce Dieu si bon dont les miséricordes inondaient mon âme de tant de joie, et je lui avais promis de distribuer ses trésors pour sa gloire et de n'en garder que ce qui était absolument nécessaire pour mes besoins journaliers. Jamais une obole de mon argent n'est donc entrée dans les coffres des banquiers du Canada, pas un seul sou des 6 500 $ que la législature m'avait donnés n'était encore dans mes mains 3 semaines plus tard. L'année suivante, je ne possédais rien des 70 000 $ que j'avais reçus lorsque j'allais fonder ma belle colonie de l'Illinois. Je n'avais plus que 1 500 $, pris d'une partie de ma belle bibliothèque que j'avais trouvée trop considérable et trop pesante pour être transportée si loin.